Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et donc aujourd'hui, on va aborder les questions des technologies émergentes. Et j'ai un très très grand plaisir d'accueillir Emmanuel Leporte, qui est au premier rang, qui est professeur à l'ENS et qui est spécialiste et pionnière. Je pense qu'il faut l'interroger après sur les tout débuts de ce que je vais vous raconter, parce que je pense que elle a commencé très tôt avec son équipe à l'ENS Cachan. Et donc, voilà, ça sera le deuxième point où elle nous parlera plus spécialement des pérovskites halogénés. Et en fait, elle abordera beaucoup plus les aspects sur les questions liées à la physique et aux propriétés de ce nouveau matériau. Moi, comme chaque fois, je vais essayer de vous faire un cours où j'aborde les questions sur comment les choses s'organisent, le jeu des idées, toujours essayer de redonner et de remonter aux sources. Et comme je disais, aujourd'hui, il y a une littérature, je l'avais dit dans la session inaugurale, il y a une littérature extrêmement abondante, des milliers d'articles. Et finalement, j'ai la chance de pouvoir me situer beaucoup au début quand il n'y en avait que quelques-uns. C'est plus facile à voir parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, comme je vous l'ai montré dans la leçon inaugurale, c'est difficile après de... Aujourd'hui, on a même des méthodes un peu statistiques pour aborder les évolutions. Il y a tout un travail qui est à faire et j'espère que de plus jeunes collègues feront toute cette histoire du domaine, justement, dans la période récente. Alors, comme d'habitude aussi, je vais revenir sur des éléments que je n'avais pas complètement détaillés ou pas présentés lors du cours précédent. Le cours précédent, souvenez-vous, il était consacré aux technologies couche-mince inorganiques. Le précédent encore, c'était sur le silicium. On était vraiment dans les matériaux inorganiques, donc pas tellement à base de carbone ou carbone-hydrogène. Et je m'étais dit qu'à chaque fois, il fallait que je fasse quelque chose concernant les analyses de cycle de vie. Alors, on avait fait le cours sur le silicium, il y avait beaucoup d'aspects concernant la mine, leur traitement, etc. Et c'est vrai que je vous devais aussi de parler un peu de l'indium. Même si l'indium n'est pas très développé, parce que c'est une filière qui est encore toute petite, c'est quelques pourcents, la problématique de l'utilisation de ce type d'éléments plus rares que le silicium se pose et il faut la traiter aussi de façon approfondie. Alors pour ça, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le cas du silicium. Souvenez-vous, le silicium, on jouait ici, vous voyez, quand Étienne Drahi a parlé, il y a silicium, aluminium. Il y a des problèmes avec ces matériaux. Par exemple, actuellement, l'aluminium, il y en a, c'est des choses extrêmement abondantes. Et puis finalement, nous, on traite sur la filière CIGS, par exemple, ou même les nouvelles filières silicium, on voit que l'indium apparaît. Et vous voyez, l'indium, c'est parmi les éléments rares. Ce n'est pas une terre rare, mais c'est quand même un élément rare. Et en fait, la chance qu'on a, l'immense chance, je dirais, c'est que cet indium, on ne cherche pas des mines d'indium. Il est présent dans le zinc, en particulier. Ça veut dire que le zinc est un élément très important au niveau tonnage, je crois que je les ai indiqués, 12,5 millions de tonnes de zinc ont été extraites en 2018, donc c'est déjà... Et l'indium en représente une petite partie, on a la chance qu'il se condense dans les fumées, il fait des sortes de cendres à base d'indium, c'est comme ça qu'on arrive à le récupérer. Et donc on voit que finalement, cet adossement de l'indium au zinc lui permet finalement d'être utilisé ou d'être présent dans les technologies. Et un grand nombre d'ailleurs d'indium n'est même pas tiré du zinc, il n'est pas purifié pour le ressortir. Je voudrais préciser aussi qu'en France, la France était un des premiers producteurs d'indium, à une quarantaine de tonnes, je crois, dans le nord de la France. Et donc, il y avait des mines de zinc aussi qui sont présentes. Donc, l'indium est assez bien distribué. Et la conclusion qu'on a pu tirer avec des collèges, on a travaillé sur justement le cycle de l'indium dans le cadre de la filière CIGS, et vous pouvez avec ces sites retrouver les études qu'on a faites concernant notamment la quantité, les évolutions. Et puis un point important, c'est quelque chose qui est rare, si on arrive à l'économiser, c'est un principe fondamental de l'écologie quelque part, c'est l'économie d'atomes, et si on est capable de faire des économies d'atomes, eh bien on voit qu'on peut finalement rendre l'indium de rare à beaucoup moins rare. Voilà, c'est une des leçons aussi d'utiliser les choses avec parcimonie et en cherchant soit de réduire, soit à substituer. Puis ici, c'est une interview que nous avons faite à PV Magazine cet été avec le collègue Ayodhya Tiwari, qui est à l'EMPA en Suisse. Voilà, donc j'en viens à la technologie émergente et nouveaux concepts. Donc sur la chose, et je ne voudrais pas l'oublier non plus, je remercie Jackie Evin parce qu'il m'a renvoyé des éléments de transparence. C'est un très grand spécialiste également en recherche pure, disons, de tout ce qui est pérovskite. Il est à Rennes, au laboratoire Photon, à l'Université de Rennes et le CNRS. Et donc voilà, je remercie parce que j'ai repris quelques-uns de ces transparents qui sont pratiquement ceux que j'aurais fait si j'avais eu besoin de les faire à partir des sources originales. Alors, je vais repartir avec cette fameuse courbe qui va nous suivre et qui finalement est un très bon guide pour les enseignements dans le photovoltaïque parce qu'on y retrouve tout. On y retrouve la science des matériaux, on y retrouve la logique d'innovation, de rupture, etc. La patience aussi. Hein, dans certains cas, on attend 10-15 ans avant qu'un record augmente. Et c'est vrai que ça fait furieusement penser aux Jeux Olympiques, effectivement, où on aligne les records du saut en longueur, du saut en hauteur, etc. Donc, le point important, c'est que cette courbe-là, ça met toutes les filières, il y en a 22, dont l'une qu'on va traiter plus précisément aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle Emerging PV, le photovoltaïque émergent. Les autres sont des filières établies. La semaine dernière, j'ai traité celle-là, Sinfim Technologies. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que donc il y a des progressions et on va traiter ces technologies qui sont là, donc les colorants, etc., etc. Et la question qu'on peut se poser, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer, un montage, j'ai pas eu le temps de le faire, qui faisait la course en fonction du temps. Et on fait apparaître ici le temps et on regarde ce qui se passe, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller vers ce qui se passe dernièrement. Regardez. Ben, il y a pas mal de temps que, par exemple, la filière CIGS dont j'ai parlé, elle n'a pas beaucoup bougé. C'est celle-ci, c'est la CIGS, c'est celle qui est en vert plein, c'est ça. Regardez, ah, elle n'a pas bougé depuis 2020. Donc ça fait 2 ans qu'on attend un nouveau record. Il y en a d'autres qui n'ont pas bougé depuis beaucoup plus longtemps. Il y en a d'autres qui viennent de bouger. Donc c'est très intéressant, regardez celle-là, elle n'a pas bougé depuis 2020. Et boum, il y en a une qui s'est avancée. Regardez celles qui ont bougé ces derniers temps, celles qui ont continué à avancer, celle-là. C'est en fait l'organique, les cellules à particules quantiques qui sont ici, des cellules émergentes. Vous avez ici ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est les tandems pérovskite silicium. Et puis, ben, on voit que finalement, les autres sont un peu rentrés. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Donc ce matin, je suis allé sur le site et j'ai regardé les derniers résultats des courses. Et je vois que ça a bougé. Les nouveaux records, c'est ces 3 records qui tombent début 2022. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, il y en a une ici par le qui est en fait un record avec des multijonctions, 4 jonctions, qui atteint aujourd'hui 39,2%. Donc il se passe des choses. Cette filière a bougé. Elle a dépassé celle-là, elle a dépassé les autres. Et puis 2 autres ont bougé. Celles-ci, qui sont les tandems silicium-pérovskite, et celles-ci qui sont pérovskites tout seuls. Donc on voit donc que finalement, il y a 3 records qui sont tombés dans les derniers mois. Donc on verra ce qui se passera dans les mois suivants, mais ça vous montre un peu l'idée du dynamisme qui est présent. Et puis si on regarde un peu plus près cette chose-là, on s'aperçoit qu'on approche les 40% avec des triples jonctions, alors c'est clairement standard, hein, c'est pas se concentrer. Ensuite, la configuration, c'est monolithique, c'est-à-dire en fait, on prend un contact à l'avant, on fait toutes les couches et on prend contact à l'arrière. Et puis, c'est basé sur des matériaux 3.5. Point intéressant, c'est qu'elles ont doublé les 6 jonctions. Regardez les 6 jonctions qui tenaient le record avant. Eh bien voilà, on a un croisement. Et en fait, la maîtrise de 3 jonctions vaut mieux que moins bien maîtriser les 6. Mais le jour où on maîtrisera les 6, on ira à plus de 50%. Donc voyez un petit peu la logique de cette évolution et le sens de cette compétition. Le deuxième record, qui approche des 30%, c'est quand même impressionnant. Donc là, on s'approche du dépassement de la limite dite de Schoeckle-Queisser. C'est les tandems silicium-pérovskite faits par le Helmholtz-Zentrum Berlin, le centre de Helmholtz à Berlin. C'est d'un éclairement standard et c'est aussi une configuration monolithique. Point important, regardez, c'est l'Europe. J'ai fait une bêtise. C'est HZB, regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a les records. HZB vient de battre Oxford PV, qui avait lui-même battu HZB avant. Vous voyez, on est vraiment comme de la compétition. Là, le point intéressant, et je tiens à le souligner, c'est que, en fait, c'est les Européens qui mènent la danse. C'est quand même intéressant de le souligner. Ici, c'est les Américains. Ils s'y unissent, il faut que je vérifie, je pense que c'est des Coréens. Et regardez les jonctions, monojonctions pérovskites, elles sont à 25,7%. Elles ont progressé quand même de 0,5% là, depuis la dernière fois. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la compétition est effrénée, en particulier avec le PFL, d'où je parlais beaucoup, qui est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui est en particulier le groupe de Michael Gretzel, dont je vais vous parler abondamment dans cette leçon. Et bon, je vais quand même, ce fameux record avec les multijonctions, je ne résiste pas quand même pour vous montrer la complexité et le niveau technologique qui est atteint par ces technologies. Et là, c'est 47,1% sous concentration. Donc on concentre à 143 soleils, c'est-à-dire au lieu d'avoir 1000 watts, on a 143 000 watts par mètre carré qui tombe. Donc c'est vraiment très très concentré, ça augmente le rendement des cellules. Et regardez les 6 jonctions qui sont là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces 6 jonctions qui sont là, regardez, c'est des jonctions à base de 3,5, et puis vous voyez qu'on passe des grandes bandes interdites, donc ces 6 jonctions qui sont liées entre elles par ce qu'on appelle des jonctions tunnels, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est des jonctions qui permettent de faire le contact électrique entre deux jonctions différentes. Il y a toute une analyse sur l'épitaxie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la réponse spectrale de ces 6 jonctions, elle est faite finalement, l'enveloppe, c'est la rouge, et regardez, elle est faite des contributions chacune des jonctions. Et on revient, chaque jonction collecte la lumière dans la zone où elle est la meilleure, c'est-à-dire la zone des longueurs d'onde qui correspondent à sa bande interdite. Et puis, je ne me suis pas privé aussi de prendre la photo, une photo de deux au moins des auteurs de ces travaux au NREL, qui ont l'air contents. Donc, c'est bien. Maintenant, donc, on va passer à ce qu'il y avait avant les pérovskites, avant tout ça, et à une filière qui est un peu oubliée. Elle n'apparaît pas dans les chartes directement, dans les records, mais elle est très importante parce qu'elle a ouvert la voie. C'est en fait la voie qui a été ouverte par Edmond Becquerel, je vous en ai parlé régulièrement, avec ce qu'on appelle les cellules photoélectrochimiques à base de semi-conducteurs. Et là, c'est pour la conversion directe en électricité. Nous avions vu qu'on pouvait faire des cellules solaires à base de jonctions Schottky, c'est-à-dire on met simplement un métal sur le semi-conducteur et on peut faire une sorte de barrière, ce qu'on appelle l'effet barrière. Ici, par exemple, c'est un semi-conducteur de type N, et on le met en contact, non pas d'un métal, mais d'un couple redox. Et la beauté de la chose, c'est que le semi-conducteur éclairé, il va y avoir des électrons qui vont être générés, qui vont venir en surface ou en volume, des trous qui vont venir en surface, et en fait, ce semi-conducteur éclairé va pouvoir communiquer ces électrons aux couples oxydoréducteurs qui sont dans la solution. C'est la base de la photosynthèse, c'est la base de tout, c'est le contact entre un solide, finalement, ou une molécule de colorant, et avec un couple redox. Et là, vous voyez, c'est un couple ferrocène-ferricinium qui est à 0,4. Donc voilà la barrière. Travaux de 1977. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils ont réussi à faire des cellules qui ne sont pas extraordinaires, 2,4% de rendement, et encore, c'est sous rayonnement monochromatique. Néanmoins, ils ont un photocourant, ils ont etc. Donc ils ouvrent la voie à une idée qui est de dire ben, pourquoi on ne ferait pas, au lieu de s'embêter à faire des jonctions, faire des couches, tout ça, on a simplement à mettre un couple redox, et puis après une contre-électrode, et puis on fait des cellules solaires comme ça qui font de l'électricité. Ça a été un rêve que j'ai moi-même caressé, puisque j'ai démarré au CNRS sur ce projet de photoélectrochimie. Donc voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce domaine, il a énormément, si vous regardez la littérature de l'époque, il y a énormément de travaux qui ont été faits, et vous voyez que des tas de semi-conducteurs ont été étudiés sous forme polycristalline, monocristalline, et vous voyez ici des milieux de la soude, des milieux basiques, et puis des couples redox, sulfure, polysulfure, ferricyanure, ferrocyanure, etc., avec des références. Et ça, c'est 1977, et Arthur Nozick est vraiment un des grands pionniers de ce domaine. Puis finalement, en 1984, on commence à se dire « mais ça serait quand même bien de faire des vraies cellules ». Bon, comment on va faire ? Bon, on va emprisonner le liquide et on va s'arranger pour qu'on va mettre le semi-conducteur. On va prendre ici une petite distance d'isolation qui fait une dizaine de microns. C'est tout simplement un joint. Et puis après, on injecte le liquide avec les couples redox, tout ce qu'il faut. On fait des trous dans le verre, etc. Et on met une électrode ici qu'on appelle la contre-électrode. Et puis, les espèces vont tourner. On va réduire ici, ça va s'oxyder ici, on va réduire. Et les espèces vont tourner entre les deux électrodes. Et donc, voilà une structure qui n'est plus liquide, et qui pourrait être une vraie cellule solaire. Et en fait, des travaux ont montré, ils sont arrivés à 14% avec du silicium dans du méthanol dans lequel ils avaient un couple redox encore à base de fer. Vous voyez, du méthylferrocène plus zéro, donc on retrouve le couple redox, et le milieu n'est pas de l'eau, parce que sinon, le silicium, il s'oxyde. Et il y a plein d'autres systèmes qui ont été étudiés comme ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, il y avait, avec des milieux qui sont des milieux sulfure-polysulfure, sélénure-polysélénure, tellurure-polytellurure. Moi, j'ai travaillé toute ma thèse d'état, je l'ai faite sur les systèmes CDT-tellure. Donc, vraiment énormément travaillé là-dessus. Et en fait, on voit qu'en 78, il y avait 12%, 87, 15%, vous voyez, avec du GAS. Et puis, le record en 90, et c'est un peu le champ du cygne, de ce point de vue-là, là, ça a rebaissé. Certains résultats ont été à 17%. Mais vous voyez, là, c'est des résultats avec du sélénure de cadmium, avec des ferricyanures, ferrocyanures. Et je voudrais, un peu le point d'orgue des études qu'on a pu faire avec Jacques Vedel, c'était de travailler sur l'adsorption des ions à la surface et les conséquences pour les cellules photoélectrochimiques. C'est un travail je suis un peu ému quand je vous le présente parce que ça a été un des points forts du travail effectué sur les mécanismes justement de ces transferts de charge. Et puis finalement, les cellules photoélectrochimiques pour la conversion directe de l'énergie, c'est une autre façon. Pourquoi aller s'embêter de faire des électrons, de remettre, alors qu'on pourrait faire directement de l'hydrogène, réduire le CO2, faire des composés d'intérêt chimique quelque part. Donc on pourrait dire, mais finalement, faire de la photocatalyse par l'électrolyse de l'eau qui peut faire de l'hydrogène, la réduction du CO2. Je n'ai pas développé plus cette chose-là pour ce cours. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, en particulier en France, sur la réduction du CO2. Marc Fontcave, etc., les gens aussi de l'université, Sorbonne Université, enfin, il y a énormément, ou Arcet, Saclay, le font. En fait, je voudrais simplement vous signaler, alors si vous ne me reconnaissez pas, c'est période de Covid, et puis c'était pour la fête de la science en 2020, et vous verrez, c'est une vidéo illustrant la découverte de l'effet photovoltaïque grâce à l'effet photoélectrochimique. Alors vous verrez, c'est du silicium, je ne vous en dis pas plus, et puis il y aura quelques bulles, pas du champagne, mais il y aura quelques bulles. En 72, ce thème-là de la conversion directe devient extrêmement important. Vous voyez, 72, c'est pas loin de 73, c'est le premier choc pétrolier. Donc vous voyez un lien entre certaines recherches et l'évolution du contexte de l'époque. Premier choc pétrolier, et deux chercheurs japonais, Fujishima et Honda, ils découvrent que quand on prend un semi-conducteur qui a une grande bande interdite, la bande de valence est très basse ici, et quand on éclaire ce semi-conducteur et qu'on le met dans l'eau acide par exemple, je pense qu'elle est acide, oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un couple redox qui est intéressant, qui est le couple d'oxydation de l'eau, donnant de l'oxygène et des protons. Et ce couple d'oxydation, on a la chance qu'il soit au-dessus du bord de la bande de valence où arrivent les trous. Et en fait, il se passe que les trous, qui sont plus bas, ils sont capables de faire une réaction d'oxydation de tout ce qui est plus haut. Les électrons, c'est le contraire, ils réduisent tout ce qui est plus bas. Eh bien, ce que vous avez, c'est que ils ont mis en évidence la possibilité que le TiO2, avec des H nu, donc avec des photons, va donner des électrons et des trous. Les trous vont oxyder l'eau, et les électrons, par l'intermédiaire d'une autre électrode, vont réduire les protons. Donc, vous voyez, la réaction bilan, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, il n'y a plus d'électricité dans le circuit extérieur, et c'est la base, vraiment la base, de la conversion directe, ça peut se faire sur des colloïdes, etc., de la photoélectrochimie qui va donner directement un produit chimique. Et c'est exactement ce qui se passe dans une feuille d'arbre, avec l'eau qui vient des racines, et puis avec le CO2, etc., etc. Et c'est un sujet qui est en pleine renaissance, évidemment, sur la question du changement climatique, l'épuisement des fossiles, etc. Donc, vous voyez, les sujets, ils montent et ils viennent. C'est-à-dire que j'ai connu ces sujets de photoélectrochimie à une époque où ils étaient très, très hauts, en particulier grâce aux travaux de Fujishima et Honda. Et après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Et puis, aujourd'hui, ça revient. Donc, il ne faut pas... La recherche, c'est aussi une question de continuité dans les idées, dans les travaux. Et alors... La transition s'est faite de façon assez étonnante. Cette idée de photoélectrochimie, elle a switché un peu entre de la photoélectrochimie sur des électrodes semi-conductrices qu'on fait travailler comme des barrières Schottky à une photoélectrochimie qui va finalement exciter des molécules qui sont à la surface du semi-conducteur. C'est-à-dire que les photons, on ne va pas les faire se faire absorber par le volume du semi-conducteur, mais par des choses qui sont à sa surface. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, et la continuité vient, c'est que ces mécanismes d'injection sur ce qu'on appelle la sensitisation, la sensibilisation des surfaces, en fait, ont été découverts pour la photographie. Quand vous éclairez du chlorure d'argent pour faire de la photo noir et blanc, comme on dit, ben, les électrons vont réduire, vont faire de l'argent zéro, ce qui va donner la couleur noire, et quelque part, les trous, puisque le chlorure d'argent est un semi-conducteur, il faut qu'il devienne quelque chose. Alors, à la base, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils oxydaient l'eau, parce que le chlorure d'argent, c'est un grand gap. Puis on s'est dit, quand même, oxyder l'eau, c'est un peu difficile. Donc, on a commencé à mettre des choses qu'on pouvait oxyder facilement. Par exemple, des molécules organiques, des choses comme ça. Et résultat, on a amélioré la vitesse de révélation ou la vitesse d'imprégnation grâce à ces phénomènes. En fait, ça, pour les semi-conducteurs, c'est venu avec un groupe extraordinaire, Heinz Gerischer, qui est vraiment un pionnier au niveau théorique et toutes ces interfaces. Et puis, je cite aussi Helmut Tribouch, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis rentré au CNRS. Il y avait, à l'époque, ce qu'on appelle un groupe de recherche qui est photoélectrode semi-conductrice. Et donc, finalement, l'approche alternative, c'est sensibiliser la surface par greffage de molécules qui vont ouvrir la voie aux cellules à colorants. Pourquoi ? Finalement, l'idée de ces gens-là, donc vous voyez ici, ça c'est une publication, j'ai dû la citer, c'est la même, hein, c'est celle de Gerischer, Tribouch. Ils se sont dit, ben, je vais prendre du ZNO, donc l'oxyde de zinc, c'est un semi-conducteur avec une grande bande interdite, il est transparent, hein, au visible, et puis je vais le mettre dans l'eau, et je l'éclaire. Évidemment, quand il l'éclaire, qu'il n'y a rien, regardez, il n'y a pas de photo courant. Tout simplement parce qu'il y a très peu de photons qui sont absorbés dans le ZNO. C'est simplement des photons UV, mais UV de chez UV. C'est-à-dire vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il ne peut pas y avoir de photo courant parce que tous les autres y traversent. Puis, ils ont l'idée, finalement, de rajouter de la fluorescéine dans la solution, qui est un colorant. Ils le mettent dans la solution. Puis, que se passe-t-il ? Ils refont la manip. À l'obscurité, il ne change pas grand-chose. Mais regardez sous éclairement. Sous éclairement, il y a un photocourant qui est généré. Et regardez, il arrive quand même à une hauteur, c'est pas beaucoup, c'est de l'ordre de 0,1 microampère. Donc c'est très peu. Néanmoins, c'est beaucoup plus que pratiquement zéro avant. Donc on a un effet. Et cet effet, il est lié à la présence de ces molécules. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si vous éteignez la lumière, regardez le courant, il revient à zéro. Conclusion, c'est bien un photocourant qui est associé à la présence de ces espèces qui viennent se greffer à la surface. Elles greffent à la surface, mais comme c'est un colorant, il absorbe la lumière. C'est pour ça qu'il y a le photocourant. Donc ça veut dire que grâce à ça, on arrive à récupérer les électrons qui sont générés par l'absorption des photons dans le colorant. Et effectivement, ils découvrent de cette façon la sensibilisation des surfaces et l'effet des colorants. Et finalement, ils se rendent compte que la couche qui est importante, c'est la couche adsorbée. En fait, le colorant, il a ce qu'on appelle des fonctions de greffage. Ça, c'est un acide carboxylique. Il y en a d'autres. Hein. Il y a avec du sulfate, etc. Il y a plein de groupes qui permettent d'aller s'accrocher à la surface de surface. Et qu'y a-t-il à la surface de ZNO ? Il y a des atomes de zinc, il y a des atomes d'oxygène qui peuvent créer des liaisons avec des choses qui viennent de la solution. Donc finalement, la fluorescéine, elle va perdre quand elle est sous forme basique, on voit que c'est un groupement carboxylate, il y a des O-. Résultat, ils viennent se greffer sur le zinc, sur les atomes de zinc, et on fait une liaison. Et donc on fait à ce moment-là une molécule, c'est de la chimisorption, qui vient à la surface. Et l'intérêt, c'est que c'est aussi un pont électronique. C'est ça qui va permettre le transfert des charges entre l'état excité du colorant et la bande, ici, la bande de conduction. Puis finalement, ils expliquent très bien la chose. C'était 68. Hein. Regardez, ils ont repris le semi-conducteur, ils ont bien compris que c'est plus du tout en volume que ça se passe, mais tout se passe à la surface. Et l'idée assez extraordinaire, c'est qu'effectivement, à partir de là, on arrive à injecter, et puis ce trou qui est là, il peut réagir en solution sur des espèces, et on verra que c'est des I-. Et point important, on sait enfin se brancher sur une molécule. On a trouvé le moyen de se brancher électriquement sur des molécules, et ça, c'est une nouveauté extraordinaire par rapport à tout ce domaine. On a réussi à se brancher, et regardez, ça, c'est un article dans l'actualité chimique où j'avais détaillé ce genre de choses en 2012. Vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose qui fait pas des kilomètres, mais qui fait quelques microns, quelques centaines de microns, un nanomètre, on est capable d'aller chercher de l'information, en l'occurrence ici du courant, sur un nanomètre, et on peut très bien dire quelle va être la tension maximale, et on passe du niveau homo, on va passer au redox, et de l'autre côté, ça passe, on a bien séparation des paires électrons-trous. Puis finalement, comment est-ce que ce que vous avez noté, c'est que le courant est extrêmement faible, 0,1 microampère par centimètre carré. Une cellule silicium, ça donne 40 milliampères par centimètre carré. Donc faire du photovoltaïque avec ça, forget about it, comme on dit. La seule façon de s'en sortir, et ça c'est la belle découverte du groupe autour de Michael Gretzel, c'était de se dire, mais c'est parce qu'il n'y a qu'une seule surface. On a une plaque de verre, et la plaque de verre ou la plaque de ZNO, elle est plate, il n'y a pas de rugosité. Mais si jamais on est capable d'avoir une surface rugueuse, où cette fois-ci on ne va pas absorber une seule monocouche sur une surface d'un centimètre carré, si elle est rugueuse et qu'elle fait plus 10 centimètres carrés, etc., on aura beaucoup plus de molécules qu'on va absorber la lumière. D'où l'idée de se dire, on va travailler avec des nanoparticules. On va prendre du ZNO ou le TiO2, on va le prendre en poudre, on va mettre la poudre au scalpel sur une plaque de verre ou une plaque conductrice, et puis on va chauffer tout ça, et quand on chauffe, on va faire ce qu'on appelle du frittage. Les particules vont se joindre les unes aux autres, et elles vont pouvoir communiquer électriquement les unes avec les autres. Et quand on trempe ça dans une solution qui contient la molécule de fluorescéine, ou de l'éosine, ou tout ce qu'on veut, alors qu'avec la plaque de verre où le ZNO est resté blanche, on ne voyait pas, il y avait une monocouche, donc on ne pouvait pas rien voir. Il fallait des systèmes sophistiqués pour les mesurer. Là, qu'est-ce qu'on voit? Elle devient rouge tout de suite. Pourquoi? Parce que la surface interne atteint plusieurs centaines de centimètres carrés par centimètre carré. Donc ça veut dire qu'en fait, on va rendre complètement rouge la surface grâce au greffage d'une monocouche partout. Et là, visiblement, on peut multiplier la surface développée de 1 cm carré à 1000 cm carré pour la même surface. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que d'un seul coup, ça devient quelque chose qui convertit efficacement la lumière en électrons pour faire des cellules solaires. Et puis finalement, comment ça communique? Ben finalement, du côté ça communique du côté ici du TiO2. Les électrons sont transférés dans le TiO2, mais les trous, ils vont oxyder de l'iodure qui est en solution. Et cet iodure va aller à la contre-électrode et va faire un tour, donc ils vont se promener. Et ils ne vont pas arrêter de faire des cycles. Plus la distance est courte, mieux c'est, parce qu'il y aura moins de résistance. Donc on voit le principe des cellules à colorant. Puis finalement, 1991, alors là, grand coup de tonnerre, la publication sur ces domaines, où on voit qu'en fait, on fait une vraie cellule solaire, donc c'est Brian O'Regan, que j'ai connu à une époque, et Michael Gretzel, qui mène, et voilà le schéma de principe, et vous voyez qu'eux, ils ne sont pas pris de la fluorescéine, ils ont pris un complexe artificiel fabriqué de ruthénium, et voyez que ce complexe, il a les groupements carboxylates pour se greffer à la surface, et regardez ce qui se passe, la réponse spectrale, si vous êtes qu'avec le TiO2, comme c'est de l'UV, on n'a pratiquement pas de formation d'électrons, et regardez quand on rajoute le ruthénium ou le complexe, on arrive à collecter jusqu'à 700 nanomètres de façon très efficace, donc on est capable de convertir, et grâce à cette approche, ce concept, on a pu faire des cellules très efficaces. Alors là, je fais un récapitulatif, mais il n'est pas... Voilà, c'est un récapitulatif qui donne tous les éléments pour visualiser. Il y a des réactions à l'anode. Donc à l'anode, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un électron, c'est à le niveau homo, il voit la H nu, il passe en... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, il passe en E lumo et H homo, donc voilà, il saute. Le E lumo, il transfère dans la bande de conduction du semi-conducteur. Et le trou qui est resté ici, le trou d'électrons qui est resté en dessous, lui, il voit un réducteur qui vient d'électrolyte, il transfère son, il attrape l'électron, et puis ça revient en fait à remettre un électron, et vous voyez qu'à l'anode, ça boucle et ça tourne. Après, il faut transporter dans l'électrolyte, il faut que l'oxydant il aille de l'électrode ici à la contre-électrode, et il faut aussi que le réducteur qui a été fait par la réaction de réduction ici revienne à sa place. Et enfin, la réaction à l'anode, c'est une réaction très simple, c'est une électrochimie tout à fait classique, l'oxydant qui prend un électron et qui se réduit. Et en fait, on a la fameuse notion de potentiel redox, et on voit que le VOC de cette structure va être en fait la différence de niveau entre ces deux niveaux-là. Voilà pour le principe. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on change le couple redox, il y a toute une possibilité de variation, et on voit apparaître finalement qu'en fonction du colorant, on va pouvoir déplacer finalement le front d'absorption de la cellule à colorant qui est ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, est-ce que dans le processus d'innovation ou de découverte, est-ce que c'est une découverte qui est née, encore une fois, toute seule, ou est-ce que cette découverte a des racines ? Et je vous ai montré tout à l'heure que la sensibilisation, elle trouvait ses racines quelque part à la cellule de Becquerel et au début de la photographie. Eh bien, dans le concept des surfaces développées, on trouve des racines aussi, que citent d'ailleurs dans l'article Brian Horrigan et Michael Gretzel. On en trouve deux. On trouve une racine en 77 dans un travail de japonais. Vous voyez que les japonais sont vraiment très, très présents dans ce domaine. Et puis, on en trouve une autre qui est intéressante parce qu'elle vient de Pierre Chartier, qui était à Strasbourg. J'ai connu quand je suis rentré au CNRS, qui travaillait déjà à la sensitisation, puisque ce domaine, il était existant, d'électrodes faites par des céramiques. Comment fait-on des céramiques ? On prend des poudres et on les concave. Et le groupe de Strasbourg, donc de laboratoire d'électrochimie et chimie physique, qui correspondait avec l'Institut de physique, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rendu compte que s'il mettait du dinonadécyl ruthénium 2 en face de la poudre de TiO2, je crois que c'était du TiO2, regardez, ils avaient un courant qui était cette fois-ci de l'ordre de 0,2-0,3 milliampères par centimètre carré. Donc un gain pratiquement de 3 ordres de grandeur, on passait du micro au milli. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez ce qu'il écrit dans la conclusion. Même s'il est prématuré de spéculer sur tout futur technologique d'un tel dispositif, il est intéressant quand même de faire remarquer qu'il est possible par ce moyen de faire de la production d'oxyde céramique de façon peu chère, à grande échelle. Voilà, et puis comme elles sont déjà connues dans les domaines de l'électroacoustique avec les céramiques. On voit quand même qu'il y a des ponts entre l'électroacoustique, donc les propriétés céramiques, et le photovoltaïque par cet intermédiaire. Moreover, et de plus, les céramiques ont l'avantage d'augmenter la surface d'électrode et permettent d'utiliser bien mieux la lumière diffuse. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? Le signal, j'appelle ça les signaux qui sont donnés dans les publications des chercheurs. Il y a souvent des petits, un peu comme le petit poussé, ils jettent des petits cailloux. Et d'autres chercheurs se saisissent de ces petits cailloux, ils ne se rendent pas compte, ils lisent, et c'est comme ça qu'avance la recherche. Mais voyez que déjà dans ce papier, en 81, c'est-à-dire 10 ans avant, il y avait cette amorce de réflexion sur la surface développée. Alors qu'en électronique, de façon classique des semi-conducteurs, les physiciens ont horreur de la rugosité. La rugosité, ça amène des tas de problèmes, des recombinaisons, des tout ça. On voit que cette fois-ci, notre rugosité, elle est positive, parce qu'on a un système qui travaille avec l'interface. Et puis finalement, je me suis amusé, là, dans ces deux transparents, à regarder, ben, finalement, et si on faisait ça avec des épinards, et si on faisait ça, puisque c'est des colorants, la nature est pleine de colorants, et là, regardez, des gens qui ont fait des cellules solaires en 2010, avec des dyes naturels extraits d'épinards, et peut-être quelqu'un ici connaît le nom français d'hypomoea. Quelqu'un le sait ? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Et regardez, ce n'est pas des rendements élevés, hein, c'est des rendements de l'ordre de 0,1%, mais en fait, ils ont travaillé avec de la chlorophylle, ils ont regardé une orange sicilienne, ils ont aperçu que finalement, ils avaient des rendements, et donc vous voyez que ça fonctionne aussi avec n'importe quel colorant qu'on met sur ces surfaces. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que finalement, même plus tard, en 2015, regardez, vous avez une conférence sur les énergies alternatives dans les pays en développement et les économies émergentes. Et puis, ben, y a des gens qui s'intéressent à qu'est-ce qu'on peut faire avec de la chlorophylle. Et là, c'est un travail qui vient de Malaisie. Regardez, vous prenez vos feuilles d'épinard ou de tabac. Il paraît que c'est pas mal aussi, les feuilles de tabac. Vous les broyez. Vous mettez de l'alcool, ça passe en solution, la solution est faite, et puis vous mettez ça comme ça, donc vous arrivez à avoir votre chlorophylle qui est dans votre solution, ça peut être de l'alcool, ça peut être de l'eau, et puis vous faites le petit système à deux électrodes, là, et vous avez une cellule à colorant et qui obtient 0,3-0,4%. Et puis ça a été très loin, parce que finalement, il y a des revues qui ont été faites en 2012, où alors là, vous avez tout, les anthocyanines, vous pouvez voir la chlorophylle, tout ça, c'est ce qui a été fait. À partir. Donc il y a vraiment eu des études très intéressantes sur les colorants naturels. Néanmoins, avant de prendre néanmoins, Je voudrais vous montrer qu'on a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Donc, on a fait un travail pendant des années, un peu comme sur l'électrolyse et les choses qu'on avait fait la semaine dernière, sur ces cellules à colorants. Et en fait, on s'est emparé un peu du sujet grâce au dépôt de ZNO par électrolyse, où on était capable de faire des nanostructures ici, regardez, avec une surface poreuse absolument considérable. Et on arrivait à faire pousser le ZNO sur des colonnes. Et donc, notre idée, c'était de dire, faisons une structure hiérarchique. Ça, c'est les autoroutes à électrons. Ça, c'est les autoroutes à iodes, et entre les deux, c'est là qu'on capte le soleil avec cette petite structure. Et en fait, on a réussi à faire des cellules, c'était le cas de la thèse de Servan Haller, avec un collègue japonais, Tsukasa Yoshida, et voilà, on a obtenu, je crois, 6-7%, et puis finalement, après ces zuts-là, les cellules à colorants, on en a moins fait, on est passé après au perovskite, comme on va le voir. Et puis finalement, j'ai regardé où en était le domaine aujourd'hui, on retrouve Michael Gretzel et son groupe, qui continuent à travailler sur cette structure-là, et regardez la situation, ils arrivent à un rendement, alors je ne l'ai pas ici, il est de 13,5%. Et ce qui est très intéressant, alors vous voyez, ils ont un couple qui n'est plus du tout le couple qu'on avait iode-iodure, c'est un couple à base de cuivre, et puis vous avez les différents colorants, avec leur gap, leur position, tout ce qu'on veut, et puis finalement, en mélangeant deux de ces colorants, ben, ils arrivent à faire ça, avec une bonne stabilité, ils sont à 13,5, et point intéressant, ce colorant, quand il est à l'intérieur, eh bien, il donne pratiquement 35% de rendement. Donc ça veut dire que les applications indoor, comme on dit, peuvent être intéressantes, mais c'est pour vous montrer comment ce domaine est monté. Alors il n'est pas monté à 20%, comme on va le voir pour les perovskites, mais il est monté à un niveau quand même, 13,5%, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, comme on dit. Voilà, et puis sinon, regardez le couple. Enfin, c'est un paradis pour chimistes organiciens ou métal organiciens. C'est vraiment un domaine où vraiment il y a énormément de choses à faire. Et puis finalement, comment le concept de réseau interplanété a fait décoller le photovoltaïque organique ? Irruption des nanostructures dans le photovoltaïque. Donc, on voit une autre chose, cette rugosité, ces nanostructures vont influencer l'ensemble du domaine et en particulier le photovoltaïque organique. Pourquoi ? Quand on travaille avec un semi-conducteur, et je pense que Emmanuel va reprendre, comme tout le monde a parlé, voilà, quand on travaille avec un semi-conducteur, il n'y a pas de souci. Quand on éclaire, on crée une paire électron-trou, et puis l'électron et le tronc se baladent pratiquement libres. Ils sont séparés, ils se baladent, ils vont au contact, etc., etc. Donc, conclusion, on peut travailler sur des distances allant de 1 à 500 microns, par exemple, pour du silicium, et on collecte sur de longues distances. On peut faire des couches empilées, une couche P, une couche N. On peut avoir finalement le photovoltaïque classique. On sait que les matériaux moléculaires, les molécules, sont d'excellents matériaux photoactifs. On l'a vu avec les colorants précédemment. On sait qu'ils sont. Malheureusement, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Quand on les éclaire, au lieu de que l'électron et le trou soient libres de se balader, ils restent liés ensemble, on appelle ça des excitons. Et cette liaison fait en sorte que finalement, ben oui, parce qu'en fait, le plus et le moins s'attirent, et ils n'arrivent pas à être séparés, pour X raisons qu'Emmanuel, je pense, précisera. Eh bien, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent diffuser sur de très courtes distances, de 10 à 20 nanomètres, et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent à leur place, et souvent, ils réémettent de la lumière. Ça fait de très bons matériaux luminescents. Par contre, pour aller collecter ça, sur 20 nanomètres, alors là... Donc, quand on a commencé à mettre une couche de type N, une couche de type P, ben, finalement, les rendements étaient mauvais, étaient bien plus mauvais que ceux qu'on avait sur des semi-conducteurs. Jusqu'à ce qu'on se dise, mais finalement, s'il y a une interface, quand il y a une interface, ce qui est intéressant, c'est que si l'exciton arrive à l'interface à un endroit où l'électron peut tomber et le trou rester, vous voyez, le trou, il ne peut pas passer là parce qu'il y a une grande barrière, eh bien, on va séparer l'exciton, donc on va récupérer l'électron et le trou, grâce à cet effet d'interface. Donc l'interface va jouer un rôle extrêmement important et on arrive à séparer. Et vous voyez qu'on retrouve une situation comme les semi-conducteurs. Donc en fait, voilà la situation. Il faut, pour que ça fonctionne, qu'il y ait à distance à moins de 20 nanomètres, il faut qu'il y ait une interface qui ait cette particularité-là, de façon à ce que les deux puissent être séparés. Et puis finalement, une fois qu'ils sont chacun dans leur circuit, quelque part, ils sont contents, ils n'ont pas envie de se recombiner, ils sont loin l'un de l'autre. Donc, résultat des courses, si on met un contact qu'on appelle un Hall Transporting Layer, un contact qui va récupérer les trous, on le met là, ben, il va le récupérer, et on met un contact ici, on va récupérer les électrons. Donc, on a une situation qui est assez simple. On a vraiment appris, à condition que les interfaces soient à moins de 20 nanomètres. Donc vous vous rendez compte? Comment on peut faire? On prend les analogues de cuisine. Alors je ne sais pas s'ils ont pensé à ça, mais je sais que cette image est souvent revenue dans certaines publications. Je suis allé plus loin, je suis allé rechercher grâce à Google des photos. Ici, vous avez une structure couche par couche classique. Ici, vous avez l'espèce moléculaire A, l'espèce moléculaire B, etc. Ça fait de très mauvaises diodes. Ça fait de bons plats, mais ça fait de mauvaises diodes. Puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout ça. Et le rouge va se mélanger partout. Il va rester, bien sûr... Alors, imaginons que l'absorption de la lumière se fasse dans le rouge. Vous voyez, elle va se faire en volume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que c'est généré dans la sauce tomate ici, eh bien, les électrons passent dans les spaghettis et les trous restent dans la sauce tomate. Donc, résultat, si vous êtes capable d'avoir un contact qui prend un bon contact sur la sauce tomate, c'est bon, vous récupérez les trous. Et de l'autre côté, vous récupérez les électrons sur les spaghettis. Et la base de ça, c'est effectivement ce qui a été fait. Et en particulier, en 2009, on a commencé à faire du mélange. On a pris les deux espèces, le PCBM, alors vous voyez, c'est le ballon de football dérivé ici pour qu'il soit soluble, et puis ici, c'est un polymère transporteur de trous. On les mélange, on les met sur du TiO2, par exemple, et puis après, on remet quelque chose d'autre qui est en fait... Un conducteur ici. Donc on met sur des TiO2. Ici, on met un polymère. Vous voyez, je vous avais parlé de la découverte des polymères conducteurs dans la session inaugurale. Vous avez ici ce polymère conducteur qui doit être conducteur d'électrons, je crois. Et donc vous avez ici quelque chose de très intéressant, c'est que vous avez ici le mélange dans lequel vous avez les deux qui sont ensemble, mais il n'y en a qu'un seul qui communique avec le TiO2 et avec l'aluminium, et l'autre, les trous, vont sortir à l'ITO. Et le tour est joué. Et à partir de là, ils ont réussi, grâce à l'optimisation de leur mélange... Alors, vous voyez que c'est vraiment du mélange. Ça, c'est dans la même publication. Regardez en fonction du mélange. S'ils sont tout seuls, ce n'est pas très bon en réponse spectrale. S'ils les mélangent bien, ça va jusqu'à 70%. Et là, on a des rendements qui commencent à tourner autour de 6-7%. Et voilà, on découvre qu'en fait, en mélangeant les deux, on va pouvoir créer... une cellule solaire qui a des caractéristiques tout à fait correctes. Et puis, les derniers résultats, ou ce type de résultat aujourd'hui, on est à environ 16% de rendement, et on va vers du 16 ou du 17%. Donc on voit que ce domaine-là a développé, est en train d'émerger avec des rendements élevés. Et regardez les procédés de dépôt, c'est des procédés qu'on appelle à la tournette, c'est du spin coating, c'est des méthodes qui n'ont plus rien à voir avec l'évaporation dont on parlait tout à l'heure. C'est plus proche de l'imprimerie. Et voyez comment c'est représenté. C'est représenté complètement interpénétré, un peu comme les spaghettis et la sauce tomate que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a eu de gros progrès, bien sûr, sur les transporteurs de trous, transporteurs d'électrons, etc. Il y a eu énormément de travail. Puis finalement, on arrive aux sources des cellules perovskites. Et bien, aux sources des cellules perovskites, il y a des gens qui se sont posé la question, c'est quand même embêtant d'utiliser des molécules, même si c'est des molécules de colorants, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc une molécule, ça n'absorbe pas beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux et faire communiquer les espèces qu'attrapent, que ce ne soit pas un semi-conducteur volumique, mais on va le faire avec des avec nanoparticules. On se dit, ben finalement, est-ce que je ne pourrais pas absorber sur le TiO2 des nanoparticules de choses qui sont très connues pour les propriétés de luminescence, de l'arsenure de l'indium, l'arsenure gallium, du phosphure d'indium, du sulfure de plomb, du CDS, du GRS, etc. Et donc, voilà le concept qui a été développé. Et ça, c'est un concept qui date en 2008. Vous voyez, on est encore... Mais ce concept, finalement, c'est exactement celui qu'a suivi en 2009 le professeur Tsutomu Miyazaka, 2009. Ben, lui, il va prendre un matériau qui est la perovskite, qui fait d'excellentes luminescences, et ça, vraiment, je pense aussi qu'on en parlera avec Emmanuel. Et en fait, il a commencé à créer ce matériau, à faire des clusters, et regardez... il a commencé à les mettre sur du TiO2. Vous voyez ? La petite boule que vous voyez, c'est un cluster de ça. Donc, il a commencé à travailler sur ce concept-là. Puis, finalement, grâce à ça, il a réussi à obtenir de premiers résultats avec des matériaux avec du brome, un autre avec de l'iode. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'il arrive à des rendements 3,8%. finalement, il arrive à 3,8%, donc ça prouve que le concept est bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces fameuses perovskites halogénées, là, finalement, quand vous remplacez le brome par de l'iode ou l'iode par du brome, vous voyez que la réponse spectrale change complètement, c'est-à-dire, en fait, vous changez l'équivalent de la transparence, de la bande interdite. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez une possibilité très importante d'ingénierie de la bande interdite par substitution anionique ou cationique. On retrouve ce qu'on a fait avec le GAS, avec tous ces composés. Voilà, et puis ça continue. Dans le domaine des perovskites, il y a un deuxième acteur, qui est M. Park de Corée, et qui obtient 6,5% en 2011, je crois. Voilà, donc vous voyez, ce domaine provient. Et puis, la révolution a lieu. Quelle est cette révolution ? Finalement, les cellules perovskites s'affranchissent des cellules à coran. Pourquoi elles s'affranchissent des cellules à coran ? Ben, font le contraire. On était là, on est passé là. Et maintenant, on est là, on va passer là. Pourquoi ? Parce que finalement, on va redécouvrir que ça fonctionne comme une filière touche mince, tout solide. Et puis finalement, on va quand même amener avec nous des choses qui viennent de notre passé, donc des cellules à colorants, notamment les contacts mésoscopiques, donc très rugueux avec du TiO2, et puis aussi des choses qui viennent de l'OPV, comme des couches organiques, en particulier polymères, conducteurs de trous et d'électrons. Donc avec ce sac à bagages, on va regarder ce qui se passe, et voilà, on passe au tout solide, et en 2012, vous voyez qu'il n'y a plus d'électrolytes. Donc c'est un travail qui a été fait avec Namgyu Park et Michael Gretzel. Donc vous voyez que Michael Gretzel est passé à ces cellules perovskites en lien avec Park qui travaillait sur les cellules de Gretzel. Et c'est marrant quand même. Donc résultat, ils travaillent ensemble et ils obtiennent à ce moment-là une structure intermédiaire où on retrouve la porosité du TiO2 imprégné et puis par contre on voit qu'on a remplacé tout l'électrolyte iodure par le conducteur de trous et la structure, vous voyez, c'est le méthylométhane qui est ici, donc on a vraiment une structure presque idéale en photovoltaïque qui n'a plus rien à voir avec la structure précédente. Et puis, à peu près au même moment, donc l'année 2012 a été une grande année, le groupe de Henris Nace, avec cette fois-ci Tutsumu Miyazaka, donc avec le japonais qui avait lui-même découvert les premières cellules, ils collaborent ensemble et puis finalement, ils passent aussi à la même chose, et ils retrouvent un peu le même genre de choses. Et ce qu'ils voient, par contre, qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont une idée assez étonnante. Ils se disent, tiens, je vais remplacer le TiO2 par de l'alumine, parce que l'alumine, on peut faire de la poudre, on la frite, etc. La différence, c'est que le TiO2, c'est un semi-conducteur à grande bande interdite. L'alumine, c'est un isolant. Et ils s'aperçoivent que l'isolant fonctionne aussi bien que le non-isolant. La preuve, regardez, ils ont une courbe avec l'alumine ici, et une courbe, voire mieux, les tensions sont même plus élevées. Et ils se disent, mais finalement, est-ce que cet isolant, il y a vraiment un rôle ? C'est la question qu'on peut se poser. Et du coup, ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir le transfert de l'électron dans le TiO2, mais qu'en fait, la perovskite fonctionnait comme un matériau normal. Et donc, grâce à ça, ils découvrent que perovskite a des propriétés qui ne sont pas celles qu'on croyait, c'est-à-dire qu'elles ne se comportent pas tellement comme un matériau organique, mais plutôt comme un semi-conducteur classique. Et le saut est fait, et on va garder le contact avec le spirométa, et alors là, ça y est, c'est parti. Depuis 2012, tout évolue, en fait, on retrouve ça, on retrouve nos deux grands pionniers de ce domaine-là sur le passage au tout solide, donc le groupe de Michael Gretzel et le groupe d'Henris Nace à Oxford, donc vous vous souvenez, Oxford PV, hein, je vous en ai parlé au début, ben, ça vient de lui, c'est l'entreprise qu'il a créée. Et donc, voilà, avec des méthodes différentes et tout. Et puis, finalement, regardez ce qui s'est passé entre 2009 et 2022. Ce matin, HZB, c'est pas HZB, c'est l'UNIST, ici, 25,2%. Nouveau record. Ici, un nouveau record. Vous voyez que deux nouveaux records sont venus avec quoi ? Avec les perovskites. Deux naissances de nouvelles technologies. Regardez. On a considéré qu'en 2012, finalement, c'était une nouvelle technologie qui était apparue. Et dans la courbe de NRL, vous voyez qu'elle démarre en 2012. Je vous ai montré toute son histoire avant. Et puis, regardez, il y en a une autre qui démarre à partir de 2016. C'est les tandems silicium-perovskite. Et regardez, vous arrivez à ce niveau-là. Et vous voyez qu'il y a eu toute une bande. Regardez, ici, c'était la première révolution, quelque part, où on a enlevé l'électrolyte, mais on a gardé les choses un peu poreuses, etc., etc., on a quand même fait une chose, c'est qu'on a changé ici, c'est un polymère conducteur. Regardez aujourd'hui, la pérovskite qui est ici, c'est exactement comme les couches de CIGS que je vous ai montrées la semaine dernière. C'est devenu un matériau, je dirais, classique. C'est une structure de cellules solaires en couche mince. Par contre, on a gardé, finalement, vous verrez, dans les travaux que je montrais juste après, il y a une petite couche en surface qui est extrêmement importante, qu'on appelle une couche tampon. Et regardez la chimie et la composition, c'est assez extraordinaire. On met tout dedans maintenant, il y a du brome, il y a du chlore, il y a de l'iode, il y a un peu de césium, du rubidium, etc. Donc il y a toute une chimie qui s'est mise en place, qui a permis des résultats exceptionnels. Et regardez l'épaisseur, je ne sais pas si on le voit ici, mais c'est une épaisseur qui est inférieure au micron. Puis finalement, on s'aperçoit que dans tous ces travaux, ce sont les interfaces qui ont énormément d'importance. Et on dit, dans le milieu en photovoltaïque, que c'est très bien d'avoir un très bon matériau massif, même un deuxième, mais si les deux ne s'aiment pas, c'est-à-dire que si on les met l'un contre l'autre, si l'interface n'est pas optimisée, le dispositif ne vaut rien. Donc il faut travailler, et c'est le sens global de travail, c'est travailler sur les interfaces, et je vous recommande cet article, on retrouve Michael Gretzel, on retrouve René Janssen, qui est quelqu'un chimiste et un spécialiste de l'OPV, il est hollandais, David Mitzi, qui est très très bien, qui était chez IBM, qui a découvert d'ailleurs le CZTS, et Edouard Sargent aussi, qui travaille sur pas mal de choses en photocatalyse, je crois. Et regardez toutes ces nouvelles technologies qu'on voit ici, qui sont très liées à ces problématiques d'interface. Vous avez ici une technologie que je ne vous ai pas détaillée, qui est les technologies à particules quantiques, Quantum Dot Solar Cell, c'est ça. Et puis, vous voyez, c'est des particules qui sont agglomérées. Et puis, on a parlé un peu du CIGS et du rôle des joints de grain la dernière fois. Vous voyez que là encore, c'est des propriétés d'interface. Pour ça, il y a aussi tout un travail qui a été fait par... c'est l'occasion de saluer Philippe Schulz, David Kahn et Antoine Kahn, qu'on se connaît bien. Et en fait, il y a même cet article revu. Tout se passe alors aux interfaces. Voilà la question. Et en fait, tout l'article travaille sur ces différentes interfaces, qu'est-ce qui se passe, comment les ions arrivent, quelle méthode il y a à utiliser pour faire des mesures, parce que c'est bien de dire qu'il faut étudier les interfaces, mais avec quelle méthode? C'est là qu'on fait affaire à du synchrotron, de l'XPS, des méthodes extrêmement avancées de caractérisation. Et vous voyez ici un détail de tous les mécanismes, je vous en ai un petit peu parlé, qui se passent à l'interface, et que c'est grâce à cette compréhension qu'on ira encore plus loin, qu'on arrivera à atteindre ces fameux 30%, etc. Et sinon, ce qui est tombé sur les scripteurs hier ou avant-hier, c'est finalement un travail de l'IPVF, donc du groupe, du programme dirigé par Jean Rousset. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits aussi en collaboration avec l'INES à Chambéry sur ce domaine. L'objectif, c'est de faire des tandems silicium-CIGS. Et regardez, ils ont obtenu un mini-module ici, avec un rendement de 17%. Et regardez la caractéristique. Et la méthode de dépôt, c'est une méthode de dépôt qu'on appelle du slot die. Alors, je sais, slot, je sais ce que ça veut dire, c'est une fente. Et die, je crois que c'est quelque chose qui tombe. Donc, en fait, vous voyez, on charge une sorte de petit râteau, une sorte de pinceau étendu. On le charge avec un liquide qui est du PBI2 dissous dans du diméthylformamide et du DMSO, diméthylsulfoxyde. Donc, vous voyez, c'est tout un... Voilà, on les mélange, on met là. Et puis, on en met un autre qui contient justement... le cation inorganique qu'on va vouloir mettre, donc du méthylammonium iodide, méthylammonium bromide ou méthylammonium chloride, vous voyez, donc tout le monde a sa place. On le met dedans, on injecte, et puis on recouvre ça comme au pinceau, un peu comme un pinceau, donc on est vraiment dans du photovoltaïque fait au pinceau dont rêvaient beaucoup d'anciens du domaine. Vous voyez, on part de SNO2, on dépose une couche de PBI2, et puis cette couche, on la transforme en pérovskite, parce que à température ambiante, l'ion méthylammonium rentre dans le réseau de PBO2 et est capable de fabriquer cette fameuse pérovskite. C'est extraordinaire. La réaction se fait sans chauffer, elle se fait à température ambiante. Peut-être qu'il monte à 100 degrés, mais enfin... Donc ça peut être fait sur des plastiques, vous voyez un peu toutes les avancées qu'il peut y avoir. Et puis, ce qui est important, c'est même dit en titre, je vous ai parlé l'autre jour de Chemical Base Deposition, la méthode de dépôt en solution sur laquelle j'ai travaillé peut-être une vingtaine d'années. Eh bien, cette méthode, elle est au goût du jour à nouveau, dans la mesure où elle permet de déposer la couche de SNO2, qui est cette petite couche ici, regardez, à la surface, et qui joue le rôle fondamental. Il suffit de 20 nanomètres, et ces 20 nanomètres permettent de faire la pérovskite et le FTO, c'est fluorine tin oxide, ça communique très bien, il n'y a pas de défaut, et regardez, on remet du spiro au méta et une couche métallique, ici de l'or, mais demain ça peut être du carbone, ça peut être ce qu'on veut. Voilà, je termine en vous disant que si vous voulez retrouver des présentations qui ressemblent à celles que je vous ai faites, mais en direct et par leurs auteurs, on a eu la chance d'avoir, lors du symposium Edmond Becquerel, un témoignage absolument passionnant. Je vous recommande d'aller l'écouter. Il s'était fait en plein confinement. Vous voyez, on était en plein confinement. Ils étaient tous les deux dans son chalet suisse pour Michael, et puis je sais, Henry devait être à Londres quelque part, voilà. Et donc voilà, ils ont fait. Lui, Henry a fait une présentation plénière pendant la journée, et Michael nous a fait l'honneur de nous envoyer la genèse, et vous retrouverez des éléments que je vous ai donnés. Je me suis servi aussi de ce qu'ils ont dit pour vous faire construire l'exposé. Voilà, et puis vous avez une vingtaine ou une trentaine de vidéos qui sont accessibles sur YouTube via le site de l'IPVF ici. Je vous remercie pour votre attention.